Bonsoir, bienvenue à cette première de la nouvelle saison de La Voix de la librairie, une émission littéraire mensuelle enregistrée en direct de la librairie Saint-Jean-Baptiste, rue Saint-Jean à Québec. Alors nous sommes aujourd'hui le 3 septembre et comme vous le savez, demain sera peut-être la conclusion, du moins on l'espère, d'un long conflit qui a mené au déclenchement d'une élection provinciale. Alors, on ne va pas parler ce soir des partis en liste ou des péripéties de cette campagne électorale qui se termine demain. Je pense qu'on en a assez entendu parler durant ce dernier mois. Nous allons plutôt discuter de démocratie et de la valeur du suffrage. Voici donc le menu de l'émission. On va commencer avec Mathieu, qui va nous présenter les principaux systèmes électoraux et les différents modes de scrutin qui existent. Et on va mettre la situation du Québec en perspective avec ça. Ensuite, Xavier va nous parler d'une fiction, un roman de José Saramago, dans lequel toute la population d'une ville décide de voter blanc. Ce qui, vous avouerez, est une utopie assez intéressante. Après ça, ce sera l'entrevue événement du mois avec Gab Paquette, qui est ici pour nous parler de son prochain spectacle qui aura lieu le 15 septembre à la librairie. Ensuite, Martin propose une réflexion sur la démocratie et le pluralisme culturel. Comme vous l'avez sûrement constaté ce printemps, notre système démocratique est remis en question par plusieurs. Alors, on va explorer un peu cette crise de légitimité de nos élus. On va terminer cette émission avec Roxane, qui va nous lire un extrait d'un bouquin incontournable lorsqu'on parle de démocratie. Il s'agit bien sûr de « La démocratie en Amérique » de Tocqueville. Alors voilà donc notre menu. On va faire une pause musicale, on va écouter « New Dress » de Depeche Mode et on revient tout de suite avec Mathieu et les différents modes de scrutin.
Bye.
C'était New Dress de Dépêche Mode. Et on accueille maintenant Mathieu.
Bonsoir Catherine.
Bonsoir Mathieu. Tu nous as préparé un exposé sur les différents modes de scrutin. Si on peut prendre ça par le début, quand on parle de mode de scrutin, de quoi on parle au juste?
Bon, en fait, assez simplement, le mode de scrutin, c'est le processus qui va permettre à un corps électoral, par exemple la population des électeurs au Québec, de désigner ses représentants. En fait, pour bien comprendre un peu qu'est-ce qu'on entend par corps électoral, il faut avoir une notion de suffrage. Donc, on va, par exemple, opposer le suffrage censitaire au suffrage universel dans le premier cas. Lorsqu'on est en présence d'un suffrage censitaire, la personne qui va avoir le droit de voter, c'est une personne qui, par exemple, va payer un certain niveau d'impôt ou va être un propriétaire terrien. Alors que le suffrage universel, ben, lui, s'ouvre autant aux hommes qu'aux femmes qui sont majeurs.
Le suffrage censitaire, c'était quelque chose, c'est un système qu'on avait ici avant, ça?
Je ne sais pas si on l'avait ici avant, mais c'est un système qui a déjà existé, notamment en Belgique.
OK.
Oui. Mais dans la plupart des démocraties modernes, on a maintenant le suffrage universel. Alors, c'est sur la base du suffrage universel qu'on va chercher un corps électoral, donc un ensemble d'électeurs.
OK.
Une autre notion assez fondamentale avant d'aborder le mode de scrutin à proprement parler est celui de circonscription, c'est-à-dire le découpage territorial des votants. C'est un aspect important parce que, dépendamment du découpage, le poids de chaque électeur ne sera pas le même. Par exemple, si j'ai sur un territoire donné une très grande densité de population, ben, ça se peut que le vote d'un électeur dans cette circonscription-là soit moins lourd que dans celui d'une circonscription sur un autre territoire où il va y avoir beaucoup moins d'électeurs.
Oui. D'ailleurs, ça cause bien des problèmes en ce moment, le débalancement par rapport aux régions puis aux grands centres où la densité de population est plus grande.
Exact. Donc, avant même de parler de mode de scrutin ou dire qu'est-ce qui représente le mieux le choix des électeurs, il y a la question du découpage territorial qui est toujours un enjeu à prendre en compte, sans égard au système de scrutin. Il y a aussi l'expression, évidemment, bien entendu, de gerrymandering qui vient des États-Unis, où, en fait, ce qu'on cherche à faire dans ce cas-là, c'est un découpage qui vise délibérément la surreprésentation d'un parti politique.
Okay.
Ce qui s'est déjà vu aux États-Unis. De plus en plus, évidemment, les lois électorales vont essayer de faire en sorte que ce genre de situation-là ne se reproduise pas.
Alors, mais il faut toujours, j'imagine, refaire le redécoupage en fonction des mouvements de démographie. Ça augmente plus à un endroit que l'autre, il faut refaire le...
Absolument. Absolument. Mais il y a, si on regarde, par exemple, les débats au Québec, il y a toujours aussi une question ou une préoccupation qui est d'assurer un certain poids aux régions. C'est-à-dire, ben, il y a les villes, mais il y a aussi les régions.
Se dépeuplent et par conséquent, ça cause un problème.
Disons que il y a un enjeu politique qui, dans le découpage des circonscriptions, est attribuable à une volonté de faire représenter ou d'aller chercher des votes, de faire ressortir davantage ou d'accorder un poids aux différentes régions.
Oui.
Cela dit, on s'écarte un peu du sujet qui est celui directement des modes de scrutin. Mmh. Et je suis convaincu que vous êtes impatiente de m'entendre parler des différents systèmes électoraux.
Mais c'est intéressant, alors. Il n'y a pas de problème.
Voilà. En gros, on va classer les systèmes électoraux en trois grandes familles.
Okay.
On va avoir les scrutins majoritaires, où le vainqueur remporte tout. On va avoir les scrutins proportionnels, dont l'objet n'est pas tellement de donner un vainqueur, mais d'assurer une représentation à toutes les formations politiques. Donc, être le plus près possible du découpage politique du corps électoral. Donc, si j'ai 30% pour un parti, 35% pour un autre parti, 10% et puis 15% pour un autre parti avec quelques...
Est-ce que tu peux nous donner des exemples de pays qui ont un scrutin majoritaire puis un scrutin proportionnel pour qu'on ait une image?
Oui. Le scrutin majoritaire, c'est ce qu'on a au Québec, c'est ce qu'on a au Canada. Le scrutin majoritaire aussi, on le retrouve dans les élections présidentielles américaines.
OK.
Sous certaines nuances. C'est aussi... En fait, dès lors qu'on essaie d'élire une seule personne, donc un scrutin présidentiel, on ne peut pas faire autrement que d'avoir un système qui est majoritaire parce que je ne peux pas avoir la proportion d'une seule personne, c'est-à-dire avoir une personne, par exemple, le président, qui va être à 55% républicain, 45% démocrate.
C'est une
seule personne, donc forcément, dans ce cas-là, on ne peut pas y aller à la proportionnelle, donc ça va être majoritaire.
Okay.
Proportionnelle, ça va bien pour les assemblées délibérantes ou lorsqu'on a plus de personnes, comme le Bundestag en Allemagne.
Ou le Sénat américain? Non.
Ben, c'est-à-dire, le Sénat américain a plusieurs sénateurs, mais il n'est pas, à ma connaissance, élu suivant un scrutin proportionnel.
Okay.
On va retrouver ça dans les pays scandinaves, par contre.
OK.
Et évidemment, on va avoir les scrutins mixtes, c'est-à-dire qu'ils contiennent des éléments du scrutin majoritaire et du scrutin proportionnel.
Or, est-ce qu'on a des exemples pratiques des pays qui ont le scrutin mixte?
Dépendamment comment on les examine, l'Allemagne, certains vont dire c'est un proportionnel parce que le résultat est effectivement proportionnel, mais au niveau de la mécanique, il est mixte parce qu'il y a une partie des députés qui sont élus suivant un scrutin majoritaire et une autre partie qui est élue suivant la proportionnelle. Alors ça, on pourra l'aborder un petit peu plus en détail quand on va faire chacun des types de scrutins.
D'accord.
Alors si on y va avec les scrutins majoritaires, l'objet d'un scrutin majoritaire, comme je le disais précédemment, c'est d'élire un candidat qui va avoir une majorité. La majorité va être absolue ou relative suivant les règles du scrutin. Et puis, le scrutin va avoir un effet au niveau soit micro électoral ou macro-électoral. Dans le cas d'un scrutin majoritaire, comme on a au Québec, c'est un scrutin qui est majoritaire uninominal, c'est-à-dire qu'on élit une seule personne à un tour. Donc, on se présente une seule fois aux urnes.
Okay.
Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que ça se peut que mon député qui soit élu avec une majorité relative. Donc, et c'est assez fréquent d'ailleurs quand on regarde les résultats des dernières élections.
Oui.
La personne qui va être élue députée dans un comté va avoir eu le plus de votes, mais n'aura pas eu 50% plus un des votes.
Mm-hmm.
Ce qui implique, à contrario, que cette personne-là, la majorité des gens ont voté contre elle.
Oui.
Et là, on regroupe chacun des représentants. Et ça, le résultat dans une circonscription, c'est ce qu'on va qualifier de niveau micro-électoral. Le macro-électoral, ça va être la formation de l'Assemblée nationale. Si on reprend un cas, encore comme ici au Québec, on n'a pas vraiment, en tant qu'électeur, de mots à dire au niveau macro-électoral. On vote pour un candidat, et dépendamment du résultat des élections à l'échelle nationale, l'Assemblée nationale va être formée. Mais on n'aura pas de mots à dire, j'aimerais ça que l'Assemblée nationale soit formée de X% de tel de députés de tel parti ou de tel autre parti. Là-dessus, on n'a pas
Le parti qui gagne, il a le pouvoir, finalement. À moins qu'il soit si minoritaire, il y a un parti qui prend le pouvoir.
Exact. Mais encore là, en tant qu'électeur, par exemple, en tant qu'électeur dans le comté de Taschereau, on n'a pas notre mot à dire sur le parti qui prend le pouvoir à l'Assemblée nationale.
Exactement.
On est exclusivement consulté sur le député de Taschereau.
De Taschereau.
Et c'est, en fait, un ensemble de décisions, plutôt, prises à des niveaux de comté dans lesquels les électeurs ne se consultent pas forcément, qui va faire en sorte qu'on va donner une majorité absolue ou relative à un parti à l'Assemblée nationale. Mais on n'a pas à dire, en tant qu'électeur, aujourd'hui, je me présente dans l'urne et je vote parce que je veux que tel parti prenne le pouvoir à l'Assemblée nationale. Je ne vote que pour la personne qui représente mon comté, qui va être membre d'un parti ou d'un autre.
C'est qu'on n'a même pas notre mot à dire, même sur le premier ministre, contrairement à France où c'est séparé, où tu élis le président, tu votes pour un président, puis ensuite tu votes sur un parlement.
Oui, mais encore là, il faut faire attention parce qu'il y a des réserves. On n'a pas un système républicain avec des partages de pouvoir aussi clairs lorsqu'on est dans une monarchie parlementaire britannique que dans un système républicain comme les Français. Et jusqu'à un certain point, on a effectivement pas un mot direct sur le choix du premier ministre. Mais dans la mesure où on sait que suivant la convention constitutionnelle, le premier ministre va être le chef du parti qui va obtenir la majorité à l'Assemblée nationale, on a une bonne idée de qui va être le premier ministre.
En effet.
Alors, on ne peut pas dire juste. Aucune consultation.
C'est vrai.
Alors là, je pense qu'on a quand même une idée assez claire de qu'est-ce qui est un scrutin majoritaire uninominal à un tour. Il va exister aussi des scrutins uninominaux à plusieurs tours. Par exemple, pour l'élection du président français, où on a deux tours, alors on cherche à élire une personne. Il y a des listes. On va, après un premier tour, éliminer les candidats les moins populaires et on va s'organiser pour aller chercher un candidat qui va avoir une majorité, dépendamment des règles qui vont régir le scrutin, qui vont avoir une majorité, soit absolue ou relative, au terme du deuxième tour ou de plusieurs tours. Une variante du scrutin uninominal à plusieurs tours, majoritaire uninominal à plusieurs tours, c'est suivant les méthodes alternatives, c'est-à-dire que l'électeur va se présenter une seule fois à l'urne plutôt que plusieurs fois lorsqu'il y a plusieurs tours, mais il va faire plusieurs choix sur son bulletin pour classer les candidats suivant sa préférence. Or là, lorsqu'on va procéder au dépouillement des votes, Ce qu'on va faire, c'est qu'on va classer les différents candidats suivant les premières préférences qu'ils ont reçues.
Oui.
Celui qui va en avoir, en fait, si déjà là, au départ, il y en a un qui a une majorité absolue, ben la question ne se pose pas, c'est lui qui est élu.
C'est un système très intéressant, ça, dont on entend parler de plus en plus ces temps-ci. Et je pense que c'est utilisé par le parti NPD pour élire leur chef de parti. Est-ce que ça se peut?
Pas tout à fait. En fait, ce que le NPD a fait, c'était une élection majoritaire uninominale à plusieurs tours.
OK.
Alors, ils ont fait un premier tour. Là, il y a eu différents candidats. Par la suite, ils ont éliminé les moins populaires. Ils ont fait un deuxième tour de vote. Mais le vote alternatif conduit au même résultat. Mais plutôt que de voter plusieurs fois,
tu le fais une fois.
Exact. Je vote une fois, mais en mettant un choix de préférence. Mm-hmm. Les préférences vont être reportées vers les candidats qui ont le plus de premiers choix, ensuite qui cumulent les deuxièmes choix de ceux dont le premier choix a été éliminé, et ainsi de suite, jusqu'à temps d'arriver à avoir un candidat qui va avoir la majorité absolue des voix.
Absolument. C'est ce qu'il y a de plus représentatif, finalement. En tout cas, c'est ce qu'il y a de plus direct comme...
En fait, c'est relativement simple dans la mesure où ça évite à l'électeur de devoir se présenter plusieurs fois.
Ouais.
Et il est capable de présenter sa préférence. C'est-à-dire, ben, idéalement, je voterais pour lui, mais si un tel n'est pas élu, ben, mon
deuxième choix, c'est ça. Mon troisième choix, ce serait ça.
Exactement. Exact. Et ça permet aussi au candidat élu d'avoir une légitimité, de dire, ben, oui, effectivement, j'ai eu une majorité absolue.
Ouais.
Donc, il n'y a pas une majorité de personnes qui ont voté contre moi, bien que j'ai été le candidat qui, ultimement, était le plus populaire. Maintenant, on a parlé des principaux scrutins majoritaires uninominaux à... Alors, on va avoir les scrutins majoritaires plurinominaux où on vote pour une liste. Alors,
je ne pensais pas qu'il existait autant de systèmes de
et là, on n'est pas encore embarqué dans la proportionnelle, mais retenez bien, l'idée des plurinominaux, c'est assez simple. Au fond, c'est qu'on vote pour une liste. Donc, on a un parti qui va présenter une liste de candidats. Alors, supposons que j'ai une circonscription pour laquelle il y a 3 députés. Alors, un parti va arriver, va proposer 3 députés. Il y a d'autres méthodes, mais l'idée, c'est qu'on vote pour une liste. Ça peut se faire comme au vote uninominal à un tour, deux tours, avec des systèmes de préférence. Un cas connu de système plurinominal, lorsqu'on examine dans le détail le fonctionnement des élections aux États-Unis, lorsqu'on vote pour les élections à la présidence, on ne vote pas vraiment pour le président, mais on vote pour la formation d'un collège électoral composé des grands électeurs.
Oui.
Par exemple, en Californie, il y en a 55. Sauf dans le Maine et le Nebraska, c'est un système de liste électorale fermée. Alors, lorsqu'on se présente, il va y avoir une liste. Par exemple, en Californie, il va y avoir 55 candidats grands électeurs démocrates et 55 républicains. Et s'il y a d'autres partis, ben, il va y avoir 55 d'un autre parti.
Okay.
Et là, l'électeur, dans le fond, va faire un choix de parti et il va y avoir 55 grands électeurs qui vont aller former le collège électoral. Alors,
okay.
Ça, c'est à la liste. La liste, on va la voir revenir lorsqu'on va regarder les scrutins proportionnels.
OK.
Alors, les scrutins majoritaires, ils ont des avantages, notamment celui de la stabilité du gouvernement, étant donné qu'ils donnent un très fort avantage au parti qui va avoir la majorité, c'est-à-dire que même s'il y a une majorité relative, généralement, il va se tirer à l'Assemblée nationale à avoir une majorité absolue. Donc, il y a le contrôle du Parlement. Alors, la question de la confiance du gouvernement dans le Parlement ne pose pas de problème. Donc, c'est très fort pour la stabilité politique.
Sur les proportionnels dont on commence à parler, là.
Oui.
OK.
Ça, c'est un des avantages. Le scrutin, en fait, le scrutin majoritaire est simple à comprendre et il donne une bonne stabilité au gouvernement. Il n'y a pas de mise en doute de la confiance du Parlement dans le gouvernement parce qu'au fond, le gouvernement a un bon contrôle de son Parlement. La critique principale qu'on oppose au scrutin majoritaire,
okay.
C'est que tous les votes ne sont pas importants. Parce que si vous avez voté et que vous êtes dans l'opposition, ben, vous n'êtes pas représenté. Et l'Assemblée nationale ne va pas représenter forcément les intentions de la population. De fait, si on regarde sa composition, ça ne représente pas fidèlement le pourcentage de voix qui ont été accordées pour différents partis. Les scrutins proportionnels, eux, vont chercher non pas à donner un gouvernement majoritaire fort et stable, mais à former une assemblée qui a une représentation fidèle de la composition du corps électoral.
Tout à fait.
Il y a différentes façons, toutes plus sophistiquées les unes que les autres.
Est-ce qu'il y a des choses qu'on reproche au scrutin proportionnel?
Oui. Certains vont dire qu'il est complexe. Et effectivement, si on est habitué uniquement de voir du vote majoritaire uninominal comme on a ici, on tend à y perdre son latin quand on commence à regarder comment ça fonctionne dans les proportionnels. Il y a d'autres personnes qui disent aussi que c'est moins, ça peut nuire à la stabilité des gouvernements.
Moi, c'est ce que j'ai entendu. C'est l'argument qu'on entend le plus souvent quand on arrive avec ça. Ils disent oui, mais là, ils pourront rien décider parce qu'ils ne seront pas assez nombreux ou majoritaires. Mais enfin, c'est...
Ben, la plupart des démocraties récentes ont soit des systèmes mixtes, soit des systèmes proportionnels. L'Allemagne a un système mixte très proportionnel et manifestement, l'instabilité politique n'est pas très grande là-bas.
Non,
alors, il y a une crainte d'instabilité politique. On peut comprendre que cette crainte-là soit soulevée dans un contexte de réforme où on passe d'un mode de scrutin majoritaire à un scrutin proportionnel. Mais ça semble pas avéré, du moins pas dans tous les cas, qu'il y ait une relation directe scrutin proportionnel instabilité politique.
Okay.
Alors, dans les différentes méthodes de scrutin, on va avoir le vote unique transférable où, en fait, on a dans une circonscription plusieurs candidats qui peuvent être pour plusieurs partis. Là, l'idée, c'est que j'ai plusieurs sièges à combler. Alors, je vais voter pour un candidat et il y a un quotient de voix nécessaire pour obtenir un siège. Donc, dans le fond, on va dire, compte tenu du nombre de sièges à pourvoir et du nombre de votes dans le comté, ça me prend, par exemple, 5000 voix pour avoir un siège. Alors, dès lors qu'il y a un candidat qui a 5000 voix, lui est élu. Et là, c'est une forme de vote alternatif. On va dire, ben, les votes de seconde préférence vont être réattribués sur les autres candidat, ce qui va permettre de pourvoir aux différents sièges disponibles en tenant compte des préférences de tous.
Alors, si un candidat qui a une très, très grande popularité et que pour qui tout le monde vote, lui, il peut transférer les votes qu'il a eu à ses collègues.
Oui.
Eh bien.
En fait, c'est pas lui qui les transfère, c'est l'électeur qui fait ce choix-là à l'avance dans son bulletin, un peu comme le vote alternatif.
OK, il fait un deuxième choix.
Oui. On va avoir, ça c'est un peu plus fréquent, le vote par quotient. Alors là, ça se fait par exemple sur une base nationale, on va dire, pour avoir un siège, ça prend X milliers de votes. Alors, pour un parti donné, à chaque fois qu'il va avoir X milliers de votes, il va avoir un siège. Alors, on comprend qu'il y a eu une liste qui a été faite. Le nombre de votes total va permettre de savoir combien de sièges ils ont droit. La liste va permettre de savoir qui, pour le parti, a droit d'y aller. Et une fois que j'ai comblé le nombre de sièges, il va rester des votes. Par exemple, je prends des chiffres comme ça, mais supposons que j'ai un parti qui, pour voir à trois sièges, va avoir eu 165 000 voix et que pour avoir droit à un siège, j'ai besoin de 50 000 voix. Okay. Je vais avoir trois sièges, puis il va me rester 15 000 voix.
Okay.
Je pourrais avoir un tiers parti, lui, va avoir eu uniquement 45 000 voix. Fait, directement, il n'y a pas droit à aucun siège. Là, et c'est là où les différentes méthodes proportionnelles vont jouer, je vais avoir des méthodes par quotient et des méthodes par diviseur où je vais aller attribuer mes sièges et là, je vais voir ce que je fais avec mes méthodes restantes.
Ça commence à être très complexe votes, comme système. Les électeurs, ils comprennent ce qu'ils font dans ce temps-là? Ça me semble que c'est déjà pas... Non, mais je veux dire, est-ce que ça existe quelque part?
Oui. Les Scandinaves ont ce genre de système-là. Alors, j'imagine que ça se comprend.
Oui.
Ou en fait, peut-être qu'ils comprennent pas, mais ils subissent et les gens qui font le dépouillement des urnes, eux, comprennent.
OK, je te suis.
Au fond, pour faire de la saucisse, pas forcément besoin de savoir comment la machine à saucisse fonctionne. Faut mettre les ingrédients dedans,
voilà.
On tourne la manivelle, ça sort en bout de ligne. Il y a peut-être
image.
Un peu de ça aussi.
OK.
Donc, on va regarder qu'est-ce qui se passe avec les sièges restants. Donc, j'avais mon 15 000 et mon 45 000. Et là, si je vais avec la méthode des plus forts restants, une fois que je vais avoir accordé trois sièges à mon parti qui a eu 165 000 voix, je vais dire, ben, il me reste un siège. Lui, je l'accorde au plus fort restant. Le plus fort restant, c'est 45 000. Alors, ça me permet d'avoir un tiers parti qui va rentrer dans mon assemblée délibérante.
Okay.
Par contre, il y a d'autres méthodes où on va y aller suivant la moyenne par siège. Et ça va avoir une tendance à favoriser les partis qui sont plus fortement élus parce que la moyenne de vote par siège serait plus élevée dans le cas de mon parti à 165 000 partis. Donc, c'est celui-là qui aurait le quatrième siège et le tiers parti n'y serait pas élu. Alors, ça, c'est le genre de méthode de calcul qu'on va retrouver dans les systèmes parfaitement proportionnels.
OK. Ça, c'est un système parfaitement proportionnel. En tout cas, parmi ce qu'on a de plus proportionnel,
oui,
parmi ce qui existe. OK.
Les systèmes mixtes, ce sont des variantes sur les deux. Un système mixte qui se comprend bien, c'est le système allemand, où il y a à peu près la moitié du Parlement qui va être élu au scrutin majoritaire uninominal à un tour. Alors, la moitié de leurs députés sont élus exactement comme on le fait ici. Ils représentent une circonscription.
Okay.
Ils sont élus du moment qu'il y a une majorité relative ou absolue, ils sont élus.
Okay.
Et il y a une autre moitié du Parlement qui, elle, est élue de façon tout à fait proportionnelle. Alors, l'électeur allemand se présente, il vote pour un candidat dans son comté et il vote sur une liste, sur un autre bulletin, et ça va faire en sorte qu'il y a une partie du Parlement qui, lui, va être composée de députés qui vont être élus à la proportionnelle.
Et, ah, c'est intéressant,
oui,
ça.
Les règles de calcul dans ce cas-là font en sorte que le Parlement lui-même représente très bien les proportions de la population.
OK.
Il y a d'autres variantes, mais on comprend un peu la mécanique.
Oui.
Je ne veux pas non plus rentrer dans le détail parce que ça peut devenir assez complexe.
Oui.
Finalement, je conclurai en disant que ces aspects-là ont été examinés au Québec. En fait, ça fait depuis les années 60 qu'il y a des volontés qui sont manifestées de faire une réforme du mode de scrutin.
Et de plus en plus, hein, c'est de plus en plus demandé, c'est de plus en plus contesté le mode de scrutin qu'on a en ce moment.
Tout à fait. Mais saviez-vous, Catherine, qu'en 2004, il y a eu dépôt d'un avant-projet de loi électorale, en fait, qui proposait une réforme du mode de scrutin.
Et oui. Qui a déposé ce projet de loi-là?
À l'époque, M. Dupuis.
Ah bon?
Et le projet de loi prévoyait, en fait, une nouvelle façon de voter qui était un système mixte. Alors, il y aurait eu, j'y vais de mémoire, 77 circonscriptions élues avec, où on aurait élu des députés de façon majoritaire uninominale à un tour.
Comme on fait là.
Exactement. Et 50 députés qui auraient été élus dans des districts qui auraient regroupé en moyenne 3 circonscriptions contiguës. Et eux auraient été élus non pas par une liste comme en Allemagne, mais en fait sur une base de calcul fait à partir des résultats donnés dans les circonscriptions. Donc, il y aurait eu une compensation proportionnelle qui aurait permis d'avoir une cinquantaine de députés qui représentent différents partis.
OK.
Alors, c'est une proposition qui a été examinée, mais il n'y a pas eu consensus dessus.
OK.
Pour toutes sortes de raisons.
Okay. Mais elle n'a pas été déposée à l'Assemblée nationale?
Oui, l'avant-projet de loi a été déposé à l'Assemblée nationale.
OK. Puis les gens n'ont pas voté pour ça. Ils trouvaient ça quoi, trop compliqué? Ou ben, en fait,
le projet de loi a été examiné par des commissions parlementaires. Il y a eu plus de 200 mémoires qui ont été déposées. Il y a eu des intervenants. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on le constate quand on lit les études qui ont été présentées par le directeur général des élections. C'est que la méthode de proportion qui était là était basée sur des relativement petits territoires. Or, plus un mécanisme de compensation proportionnelle est basé sur un petit territoire, moins il va être proportionnel.
En effet.
Parce que si je peux élire deux personnes à la proportionnelle, ben, c'est qu'à un moment donné, je ne pourrai pas subdiviser des personnes en proportion. Alors que si j'ai une compensation à l'échelle nationale, c'est-à-dire si ma compensation proportionnelle est à l'échelle nationale, un parti qui représente 10% de la population va pouvoir avoir quelques sièges.
OK.
Alors, il y avait certaines critiques qui ont été soulevées là-dessus, qui ont fait en sorte qu'il n'y a pas vraiment eu de consensus autour de l'avant-projet. Alors, ça semble être mort au feuilleton.
C'est ça. Ce que je comprends, dans le fond, c'est qu'on critique beaucoup le système qu'on a en ce moment, mais quand on arrive pour proposer quelque chose de plus proportionnel, ça devient très complexe parce qu'on peut tomber, c'est si proportionnel que ça, ou c'est toutes sortes d'écueils là, qui peuvent se présenter.
Absolument.
Bon, ben écoute, c'est extrêmement complet comme présentation. J'espère que les gens vont avoir compris que, notre système n'est pas parfait, mais quand on essaie d'en trouver un autre, c'est peut-être pas évident non plus. Je te remercie beaucoup, Mathieu.
Tout le plaisir a été pour moi.
Alors, les gens qui vont aller voter demain vont savoir dans quel système ils vont voter et les conséquences. Alors, on va faire une petite pause musicale. On va écouter « Cold, Cold Heart » de Hank William. Et on revient avec Xavier et le roman « La lucidité ».
I try so hard, my dear, to show that you're my every dream. Yet you're afraid each thing I do is just some evil scheme. A memory from your lonesome past keeps us so far apart. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? Another love before my time made your heart sad and blue. And so my heart is paying now for things I didn't do. In anger, unkind words are said that make the teardrops start. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? You'll never know how much it hurts to see you sit and cry. You know you need and want my love, yet you're afraid to try. Why do you run and hide from life? To try it just ain't smart. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? There was a time when I believed that you belonged to me. But now I know your heart is shackled to a memory. The more I learn to care for you, the more we drift apart. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart?
C'était donc Cold Cold Heart de Hank William, pièce choisie par Xavier qui vient de se joindre à nous. Bonsoir Xavier.
Bonsoir Catherine.
Alors t'as lu pour nous ce mois-ci un roman qui s'intitule La Lucidité. C'est un roman qui a été écrit par José Saramago, qui a été écrit en 2004 et traduit en français en 2006. Tu me dis un petit peu de quoi ça parle?
Saramago, il a eu un prix Nobel en 98, mais ce roman-là parle... Grosso modo, c'est une population qui décide à 83% de faire un vote blanc, donc d'aller annuler leur vote volontairement. Puis ensuite, il y a une division, là, donc 8% au parti de gauche, 8% au parti de droite, 1% au parti de... 1% au parti de gauche, puis 8% au parti de centre. Puis une espèce de le gouvernement n'accepte pas ça du tout, donc... Il y a des alliances un peu loufoques entre le parti de droite, parti de gauche, parti de centre qui décident de mettre ça sur la faute de quelqu'un. Donc on attaque les anarchistes à ce moment-là, une fausse communauté anarchiste là, qui vont créer en fait, qui vont créer, puis ils vont amener une espèce de climat complètement de guerre là, dans l'espèce de ville. Puis ça rentre dans le surréalisme, là, en fait c'est clairement voulu, là, donc... Il fait exprès, il y a une grande ironie dans ce roman-là, c'est clair. Il y a aussi une syntaxe essoufflante, paraît-il que c'est le style de Saramago d'ailleurs, une syntaxe très essoufflante, donc il n'y a jamais de guillemets, les dialogues sont complètement décousus, il y a beaucoup de digressions. Puis c'est ça, en fait, pour revenir au contexte, donc à un moment-là, il y a une espèce de lettre qui circule, comme quoi une femme serait à l'origine de tout ça, donc... Il y a un commissaire, puis son détective qui vont chercher cette femme-là qui n'existe pas. Donc, voilà. Puis le commissaire lui fait une espèce de petite remise en question. Mais en fait, on voit que Saramago prend clairement des positions contre la démocratie représentative. Puis, ce qui est un peu loufoque dans tout ça aussi, c'est qu'il prend des positions... En fait, il ridiculise un peu la démocratie en général, on dirait, en tout cas la démocratie représentative. Puis il a adhéré au Parti communiste de 69 jusqu'à sa mort.
Okay.
Donc c'est un peu drôle en fait que un communiste ait écrit un ouvrage aussi aussi comme cynique en fait,
ouais.
Là, puis envers la politique, en tout cas en général. Puis il détruit tous les partis. Puis d'ailleurs, il est jamais... c'est des partis de gauche. Il y a jamais de nom. On sait jamais quel... Il n'y a jamais de nom dans ce livre-là. C'est le commissaire, le policier. Il dénonce aussi l'État répressif, je veux dire, l'outil répressif de l'État. À un moment donné, il y a une espèce d'atmosphère de Big Brother, si on veut. Moi, je trouve ça drôle qu'un communiste, justement, qui a été communiste jusqu'en 2008, écrive avec autant d'ironie une histoire dans un climat, justement, de surveillance.
Puis c'est un livre de fin de vie, je pense, hein? Il est mort...
Il est mort en 2008.
Bon, puis ça a été écrit en 2004, donc c'est comme s'il livrait...
Mais c'est un être, en fait, je lui enlève rien, un être excessivement cultivé qui a appris en autodidacte, donc j'ai lu quelque part que sa mère était même illettre, donc elle était analphabète, elle savait pas... Puis c'est un autodidacte, c'est d'ailleurs le seul portugais.
C'est il est portugais, c'est ça que j'allais demander, ou c'est ça, ouais. C'est un portugais.
Le seul portugais qui a gagné le prix Nobel aussi, là. Donc, faut rien lui enlever. Il faut dire que quand il a adhéré au Parti communiste, il y avait Salazar à ce moment-là, donc une dictature. Ça devait être difficile, je connais pas exactement le contexte, mais c'est sûr que ça a été, je veux dire, ça a dû prendre, en fait, ça prend beaucoup de courage pour se dresser en Parti communiste. Mais en tout cas, tout ça pour dire que, au moins, il incite les gens à voter blanc et... se déplacer aux urnes pour justement blanchir leur vote. Là.
Je pense que c'est ça qui est intéressant, en fait, de la manière dont tu m'en parles, c'est cette prise de position pour le vote blanc. En ce moment, on veut que les gens fassent l'inverse. On dit aux gens il faut voter, il faut prendre position.
En fait, moi, je pense qu'il faut pas nécessairement voter, mais il faut clairement se déplacer aux urnes pour, justement, si on n'est pas d'accord avec les partis, pas... Moi, je suis contre les votes stratégiques, donc... Puis je pense que c'est important, si on veut se déplacer aux urnes, de clairement, si on n'est pas d'accord avec aucun parti, de au moins montrer qu'on va annuler notre vote, puis voter, je sais pas moi, pour Batman ou...
Mais de l'exprimer, finalement.
Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Là, je veux dire,
Parce que c'est intéressant de se poser la question, quelles seraient les conséquences, effectivement, d'un vote blanc majoritaire? Vraiment,
ouais,
là?
Mais ça serait loufoque, je pense, là. Mais je pense aussi qu'il n'y a pas tort, dans le sens que probablement qu'il y aurait... des coupables, puis qu'on crierait probablement plus au scandale, donc à la tricherie, puis s'il y avait un vote blanc, que quand des partis rentrent haut la main, là, puis se font financer frauduleusement. Ouais. Donc je pense que c'est aussi un petit peu cynique, là, à quelque part, de penser comme ça, mais peut-être pas...
Parce qu'on dit que c'est comme antidémocratique, finalement.
Ouais, ce qui est tout à fait faux, en fait. Là.
Ouais.
Je veux dire, ça prouve, en fait, non, c'est complètement faux de dire que c'est antidémocratique de faire un vote blanc, puisque, je veux dire, si on le fait délibérément, c'est clairement ce qu'on pense, puis on n'est pas d'accord avec les peuples. Puis surtout dans une politique comme Mathieu disait tantôt, ici, c'est pas un scrutin proportionnel, donc c'est plus on y va plus directement. Là. Donc, voilà, il y a moins de... On peut moins répartir la balance du pouvoir, malheureusement. Donc, voilà.
Ben merci, Xavier. Alors, on dit à tous les gens qui ont l'intention de voter blanc demain, allez-y.
Ouais,
vous avez le droit. Et vous pourrez lire La lucidité de Saramago et ça va vraiment vous inspirer. Merci, Xavier.
Ça fait plaisir, Catherine.
On va faire une pause musicale. En fait, c'est maintenant l'heure de notre entrevue événement du mois. On va accueillir Gab Paquette, mais avant, on va écouter une de ses chansons qui s'appelle Rod Stewart.
Rod Stewart. Je m'étais mis dans la tête ressembler à Rod Stewart. Dans la nuit, c'était la fête. Je semais les riffs, je menais les claques. Quand l'inspiration venait à manquer, je déplaçais simplement mon joli grain de beauté, ma tignasse blonde, le regard effacé. Je m'étais mis dans la tête de ressembler à Rod Stewart. Je m'étais mis dans la tête ressembler à Rod Stewart. Dans la nuit, c'était la fête. Je semais les riffs et je menais les claques. Quand l'inspiration venait à manquer, j'avouais ouvertement ma bisexualité, ma tignasse blonde, le regard effacé. je m'étais mis dans la tête de ressembler à Rod Stewart. Dis-moi une chose importante, quelle est ta chanson favorite?
Rod Stewart,
de Rod Stewart. Je passerai mes nuits blanches à repasser les disques de
Rod Stewart,
de Rod Stewart. Le palmarès est à l'évidence, tous seront à la suite de
Rod Stewart,
de Rod Stewart. Car la seule vraie différence, c'est qu'il chante avec ses drits.
Rod Stewart,
ce Rod Stewart. Rod Stewart,
Rod Stewart,
Rod Stewart,
Rod Stewart,
Rod Stewart,
Rod Stewart,
Rod Stewart, Rod Stewart,
Rod Stewart,
Rod Stewart,
Rod Stewart,
Rod Stewart,
Rod Stewart.
C'était donc la chanson Rod Stewart de Gab Paquette.
Oui!
Bonsoir, cool. Gab.
Salut.
Gab Paquette, c'est un peu notre artiste fétiche ici à la librairie. C'est celui qu'on ne se tanne pas d'écouter, qu'on réécoute sans cesse. Et il est ici ce soir pour nous parler du 5e anniversaire de son premier album qui s'appelait Crème glacée bois sauvage.
Non, c'est pas mon premier, en fait. C'est mon premier vinyle EP, mais tu vas me faire pleurer en disant ça.
5 ans déjà?
Non, pour le 5 ans, que vous m'appréciez.
C'était quoi le concept? Quand t'as écrit ça, crème glacée, bois sauvage?
Ben écoute, je gossais sur un riff de guitare, puis là j'étais dans le bois, puis j'étais dans le pit, puis j'avais le goût de manger une crème glacée. Puis je me suis dit qu'il n'y en avait pas dans le coin. Fait que là, moi j'ai voulu aller en ville, puis amener le bois sauvage dans la crème glacée.
Okay.
Donc c'est un concept entre... c'est comme la notion de frontier dans le concept de Tocqueville, là. Celui qui est venu aux États-Unis, là, trouver les 7 concepts fondamentaux
De la démocratie.
De la démocratie en Amérique.
Et, OK.
Donc...
Excuse-moi, oui.
Donc voilà, là, j'ai pris un élément de la nature et un élément culturel pour les faire fusionner. Puis cette année, en fait, le 15 septembre, Catherine, oui. On va avoir droit à de la vraie crème glacée bois sauvage. J'en ai fait voilà 2 semaines.
Pour vrai.
Alors les gens qui vont venir à la librairie le 15 septembre vont pouvoir enfin déguster la vraie saveur de l'été. Parce qu'à l'époque aussi, c'est ça, je cherchais la saveur de l'été. Moi, je me disais, qu'est-ce qui pourrait être rafraîchissant? Qu'est-ce qui pourrait
être
nouveau genre? Tu sais, puis c'était ça.
Puis t'as écrit combien de chansons?
Sur crème glacée bois sauvage, ouais. Juste une. Ah non, il y en a 4, mais il y en a juste une qui s'appelle crème glacée bois sauvage.
Ok, oui, mais cet album-là comprend...
Ouais, 4 chansons.
4 chansons, ouais, ouais. Voilà. Puis est-ce qu'il est encore disponible?
Oui, j'en ai refait une réédition, en fait, de vinyle. Là. J'en ai encore quelques-uns avec la carte de téléchargement,
wow.
Cette fois. Ouais, ouais, ouais.
Et donc, le 15 septembre, ici à la librairie Saint-Jean-Baptiste,
oui,
tu vas nous présenter... Avec ton band.
Avec mon band, c'est ça, exact.
T'as un band, maintenant?
Oui, j'ai un groupe de... On est 4 musiciens.
OK. Est-ce que ça fait que tu as fait des arrangements différents, que les chansons sont comme revisitées?
Ouais, ça va être revisité entièrement, là. Ça sera plus moi tout seul à guitare, là. Ben, à l'époque, j'avais des choristes, là.
OK.
Puis donc, il me reste une choriste qui est Jane, mais je vais peut-être essayer d'en avoir 2, là. On verra. Je voudrais dire des surprises.
Parle-nous un petit peu de ta gang, ton band, là, c'est qui?
C'est Jane Erhardt au clavier et à la voix. Mm-hmm. Ensuite, Renaud Pilote à batterie, voix aussi. Et Hugo Lemalte à la basse. Et moi-même qui joue de la guitare.
Puis ça fait chante. Quoi? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, là?
Ça fait... Le premier spectacle qu'on a fait ensemble, c'était en mars de cette année.
OK.
Donc, c'était assez récent.
Fait que ça fait pas tout à fait un an, mais ça fait 6 mois, là.
Ouais.
OK.
On a commencé à enregistrer dans le local, puis on continue ça, là, à travailler là-dessus pas mal. Puis on va se mettre fin prêt à vous présenter quelque chose de géant, là, ici.
Le 15 septembre, c'est à quelle heure?
C'est à quelle heure, hein, David? À 8 heures.
À 8 heures?
8 heures, donc 8h30, 9h. Il n'y a pas d'heure.
Ah, ils disent qu'il n'y a
pas
d'heure.
Quand
alors,
vous voulez.
Arrivez quand vous voulez. Le 15 septembre, librairie Saint-Jean-Baptiste, 565, rue Saint-Jean, Gab Paquette et son band.
Et de la crème glacée bois sauvage, authentique, naturelle, bio.
Merci Gab. On va faire une pause. On va écouter Democracy de Leonard Cohen et on va commencer à entamer la première partie de notre discussion avec Martin sur justement la démocratie.
The river's gonna weep and the mountain's gonna shout, amen. man. It's coming like the tidal flood beneath the lunar sway. Imperial, mysterious, and amorous ray. Democracy is coming to the USA.
C'était donc Democracy de Leonard Cohen. Et maintenant, on va un petit peu réfléchir sur l'idée de démocratie, justement, avec Martin.
Bonsoir, Catherine.
Salut, Martin, ça va?
Oui, toi?
Oui.
Donc, écoute, je suis très content d'être ici pour faire une petite présentation très, très vite, ou du moins un sommaire pour les auditeurs. Catherine, dans le fond, m'a demandé de faire une présentation sur la démocratie, c'est-à-dire sous forme de réflexion. Ouais. Et moi, j'ai décidé de l'orienter sur, finalement, les contextes de crise qu'on voit émerger souvent en démocratie et qui nous font questionner sur le fait, est-ce que la démocratie, finalement, est le meilleur modèle? Est-ce qu'on vit dans comme Churchill disait, le moins pire des modèles? Ou bref, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et il y a trois points ou trois vraiment versions ou trois crises qui m'ont vraiment sauté aux yeux. Et pour faire une petite présentation très, très sommaire, en premier lieu, la crise de la représentation. Donc ça, c'est quelque chose qui revient très, très souvent aujourd'hui. Sommes-nous bien représentés? Et blablabla, blablabla, vous voyez genre, on va y revenir. En deuxième lieu, je parlais aussi de la crise par rapport à l'intégration. Donc l'intégration des nouveaux arrivants, ce qu'on appelle bien sûr aussi la gestion du pluralisme culturel, pluralisme identitaire, qui fait beaucoup de vagues encore aujourd'hui, et même dans les élections provinciales pour laquelle on est appelé aux urnes demain. Mm-hmm. Eh bien, c'est un sujet qui revient souvent. Et troisième point que je vais traiter aujourd'hui, c'est la gestion du conflit. Donc, qu'est-ce que le conflit en démocratie et quelle est sa place dans la démocratie aussi? Et on voit qu'on est de plus en plus frileux avec ça. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire une petite réflexion là-dessus. Et voilà. Donc, c'était la présentation sommaire.
Donc, effectivement, demain, on va probablement élire un nouveau gouvernement. Et donc, on va procéder à une action de suffrage démocratique, oui. Mais pour plusieurs personnes en ce moment, on se questionne effectivement sur la démocratie et particulièrement sur la démocratie représentative.
Oui.
Pourquoi?
Parce que dans le fond, c'est certain que si historiquement on fait un petit retour, la démocratie a été instaurée quand même assez drastiquement dans certains cas. On pense à la Révolution française et à la Révolution américaine qui est un peu plus graduelle dans ce cas-ci. Eh bien, la démocratie représentative, c'est donner la voix aux électeurs, mais par l'entremise d'un représentant. Donc, on y va au sens propre du terme, représentation, représentant. Ouais. Et à travers les âges, ce qu'on voit, ou à travers les époques, c'est qu'il semble avoir de la difficulté pour le système ou le régime démocratique à vraiment canaliser les aspirations des votants vers le représentant qui lui porte effectivement au Parlement. Donc ça, c'est la première crise de représentativité, si on veut. Et ça, on la vit souvent depuis quelque temps ici au Québec. notamment, et j'ai décidé de séparer ça en trois points, okay. Notamment sur le plan du citoyen, donc oui. Le citoyen, lui, qui se pose des questions, sur le plan du député également, donc c'est quoi la crise de légitimité que traverse le député en tant que qu'employé finalement de la population présentement.
Ouais.
Et en troisième lieu, ben le système électoral aussi qui a des problèmes selon beaucoup de gens par rapport à la représentation, ouais. Pardon. Et ça, on en a déjà parlé un petit ouais. peu plus tôt dans l'émission, donc je reviendrai pas trop là-dessus. Oui.
C'est ça, je veux pas changer tes idées ni te mélanger dans ton ordre, mais c'est parce qu'effectivement, on a parfois l'impression que nos députés ne représentent pas leurs électeurs, mais le parti ouais. auquel ils sont rattachés. Je pense qu'il y a beaucoup de critiques qui viennent de ça.
Ben c'est parce que c'est certain que à la base, si encore on revient à notre système parlementaire britannique, nous on vote pour un parti à la base, et le député dans tout ça, ben lui c'est certain qu'il doit faire ses marches dans le parti, doit faire ses preuves, ouais. doit apporter quelque chose, et surtout canaliser ces énergies-là finalement de la population vers son parti. Donc ce qu'on voit, ou ce qui est difficile, c'est que pour beaucoup de députés, ben il y en a qui font leur marque, qui sont très en vue, qu'on voit beaucoup, et on sent que la représentation peut-être est plus forte. Mais pour oui. beaucoup de députés, qu'on appelle les députés d'arrière-ban, ceux dont on n'entend pas beaucoup parler, c'est très difficile de savoir qu'est-ce qu'ils font. Est-ce qu'ils finalement représentent bien mon comté? Est-ce que mes oui. intérêts sont bien défendus par lui? Et c'est là que la crise de légitimité du député survient. Oui. Dans un système aussi complexe que ça, comment moi, avec mon vote, je fais pour finalement être représenté, et ça pose beaucoup de problèmes. Donc, un volet de la crise se joue beaucoup à ça, comment je pourrais dire ça, cette appréhension-là, ou comment on anticipe le travail du député. Et c'est ouais. peut-être là qu'il y a un décalage aussi avec la réalité, parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui sachent qu'est-ce que le député fait en dehors de la Chambre. Ce qu'on voit, nous, c'est la Chambre, c'est la politique spectacle, c'est la période de questions, et le député a beaucoup d'autres tâches ouais. au travers ça, et c'est là que il y a un besoin, ou du moins un plus grand besoin d'information pour la population.
Dans le fond, on a une perte de confiance dans le système, parce qu'il n'est pas très représentatif, mais en plus, on a une perte de confiance dans le député lui-même, parce qu'on ne comprend pas toujours ce qu'il fait. On a l'impression qu'il ne fait rien.
Exactement. Ben ça, c'est une partie de la chose. Donc, la tâche réelle du député. Il y a aussi les questions d'éthique qui vont revenir plus tard, ou qu'on entend beaucoup, du moins, parler présentement. Donc, comment le député, est-ce qu'il représente les intérêts économiques ou il représente le petit peuple? Donc, on voit la sorte de décor qui se creuse entre les attentes des gens et la réalité, ou du moins, ce qu'ils croient qu'est la réalité. Donc ça, c'est un premier problème. Moi, un autre qui me frappe, et surtout en étant à Québec, on en entend beaucoup parler, que ce soit par les radios, que ce soit par la supposée mentalité politique qui caractérise Québec. Donc vraiment une mentalité plus individualiste, plus de droite, entre guillemets. Et ça se répercute beaucoup sur le discours du citoyen quand il parle de la démocratie lui-même. Et j'ai trois citations, si on veut, qu'on entend souvent et qui vont vraiment bien refléter la crise de confiance qu'on vit, vous allez voir. Et la première, c'est modification du cogito de Descartes. Le « je pense, donc je suis » devient le « je paie des taxes, donc je suis ».
Donc, j'aime bien ça.
Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup à Québec et dans certaines radios aussi.
Okay.
Parce que le citoyen, de plus en plus, qui se demande s'il est représenté, bien lui, il se dit « ben moi, je paie des taxes, ouais. pourquoi je n'ai pas une représentation directe, ou du moins, pourquoi moi, dans les décisions qui sont prises, je n'ai pas vraiment plus de retour de
mais
retour ?»
Ça, c'est le clientélisme, là, de
exactement.
Là,
c'est là qu'on en vient au citoyen.
Je paye pour un service.
Client.
Si j'ai pas le service, je vais pas payer pour.
Ben tout à fait. Et c'est là peut-être là où je veux revenir sur la certaine forme de distorsion qui se crée sur vraiment ce qu'est la démocratie représentative, ce qu'elle est vraiment et ce que nous on attend d'elle. Donc ça, c'est un petit peu complexe. Et le citoyen qui paie des taxes jappe très fort. Ouais. Et ça, c'est sans mépris que je dis ça. Jappe très fort, c'est-à-dire parle vraiment très fort. Et ça, on l'entend beaucoup. Donc première chose. Deuxième chose du citoyen. Client qu'on entend souvent de plus en plus, c'est « il n'y a plus de temps à perdre, c'est assez ». Donc, on le voit très
ça
bien.
Ça ressemble à un slogan, ça.
Ça ressemble à un slogan qui revient, qu'on a en vue depuis quelques mois au Québec. Et ça, c'est vraiment symptomatique du fait que le citoyen qui ne se sent pas vraiment représenté, ou du moins de moins en moins, il se dit « ben là, il faut brasser la cage, il faut faire quelque chose ». Et là, moi, je suis tanné des délibérations, je suis tanné que ça brette, que ça, pardonnez-moi les termes, que ça brette, que ça tête. Il dit, moi, je veux que ça bouge. Et
mais
là,
c'est comme un désir de changement, mais...
Mais avec quel fond? C'est
oui,
ça la question.
C'est ça,
on change pourquoi?
Pourquoi, oui.
Exactement. Ça, c'est toute la question, la notion du changement aussi dans les discours politiques. On parle du changement, mais à partir du moment où le changement est là, à un moment donné, c'est difficile, je crois, pour un parti politique de toujours prôner le changement, parce que c'est changement par rapport à quoi?
Oui, d'autant plus que souvent, l'électeur, il veut changer, mais pas trop.
Ben, c'est pas trop. Il faut vraiment le caresser dans le sens du poil, et c'est encore une fois un autre écueil qui se présente en démocratie. C'est vraiment le souci d'effectivité du citoyen qui paie, mais qui doit réaliser, du moins je crois, que les biens publics n'ont pas, c'est pas la même structure qu'un bien de consommation, donc c'est pas du instant comptant. Et c'est là qu'il y a des problèmes, ou du moins que la crise s'amplifie, c'est qu'on ne sait plus à quoi s'attendre de tout ça. Il faut que ça change, mais sans trop savoir pourquoi.
Mais c'est comme si l'électeur avait le sentiment que la démocratie, c'était un système qui devait absolument prendre compte de ses propres besoins ou intérêts, là?
Ben, ça, c'est...
C'est pas nécessairement le cas, là?
Ben, c'est parce que dans l'idéal, si on retourne encore dans les conceptions de la démocratie, c'est ce qu'on vend aussi aux gens. On leur dit, ben, voici, avec une démocratie, vous allez avoir vraiment plus de portes d'accès aux décisions. Et vous allez être bien servi. Donc, il y a vraiment des attentes aussi qui sont créées.
Oui.
Et le décalage qui se crée entre ces attentes-là et la réalité, c'est ça qui est un petit peu dur à accepter. Et je me mets dans la peau du citoyen et je m'inclus dans... Il est difficile d'accepter ça aussi, ce décalage-là. Mais tout ça pour dire que ce fameux citoyen-client-là, ben s'il est mal représenté, s'il paie des taxes et qu'il n'a pas de retour sur investissement, entre guillemets, ce qu'on entend le plus souvent, c'est que, ou du moins de plus en plus, c'est que les élus maintenant, sont tous corrompus. Ça, c'est la troisième citation qui revient. L'éthique publique en politique, ou du moins l'éthique politique, c'est vraiment quelque chose qui est très, très présent au Québec. Et si ce cynisme-là, du moins que le député n'est pas un serviteur du peuple, mais est quelqu'un qui va simplement servir ses intérêts et les intérêts des mieux nantis, eh bien là, on est dans le trou.
On a beurré très, très épais sur ce thème-là.
Et avec raison.
Et c'est pas fini. Avec la commission Charbonneau, on va en entendre encore beaucoup parler.
On va en entendre beaucoup parler encore, mais c'est là que va falloir être vigilant pour pas tomber. Et ça, c'est une critique qui est très valable selon moi. C'est la politique spectacle non plus. Et ce qu'on critique beaucoup au Québec aussi, c'est finalement cette accumulation de commissions, d'études, sans qu'il n'y ait vraiment de débouchés concrets, de résultats concrets. Donc ça va être à voir. Donc la crise de la représentation pour le citoyen, avec ces trois citations-là, je trouve vraiment que ça représente bien un petit peu l'état d'esprit dans lequel on se trouve, du moins, j'aime pas dire ça, mais en 2012. On est en 2012, et bien, c'est comme ça qu'on se sent, ou du moins, c'est ce qu'on entend très, très souvent.
Il y a un thème dont on entend de plus en plus parler et qui monte, c'est l'idée de la démocratie directe. On n'entendait jamais parler de ça avant. Puis là, tout à coup, les gens se mettent à dire la démocratie directe, ça devrait être plus direct. C'est quoi, en fait, la démocratie directe et est-ce que c'est possible?
La démocratie directe, il y en a qui vont dire que c'est un incontournable de la démocratie compte tenu de cette crise de la représentation-là. Il y en a d'autres qui sont plus sceptiques, voire cyniques, qui vont dire que c'est totalement un mythe.
Ouais.
Et l'enjeu de la démocratie directe va vraiment émerger dans les années 60 aux États-Unis. De là, pour faire un petit parallèle avec la philosophie politique, c'est vraiment là où vont émerger les théories de la justice, John Rawls, les théories de l'espace communicationnel avec Habermas. Donc vraiment, comment créer, si on veut, des instances de décision, des instances de discussion qui, premièrement, vont prendre en compte les points de vue de tous, qu'ils soient marginaux ou qu'ils soient très, très courants, donc « mainstream », entre guillemets. Et c'est vraiment une procédure qui vise à institutionnaliser, donc à rendre vraiment courante, à rendre structurelle, finalement, la participation des citoyens voulus ordinaires. Pas des spécialistes, mais vraiment des citoyens ordinaires au-delà du simple vote périodique.
Donc, mais ça veut dire que le citoyen participe directement aux décisions à chaque projet de loi, à chaque... on ne sait pas trop là, la concrétisation de ça. Là.
Ben exactement ça. C'est encore une fois, c'est d'y aller dans la juste mesure, dans le sens où il y en a qui vont vraiment prôner. C'est vraiment un éventail, un continuum. Il y en a qui vont prôner vraiment la participation directe, constante. Et il y en a qui vont dire, ben c'est en certains enjeux qui sont plus importants ou qui ont vraiment une portée nationale, une portée morale aussi. Et bien ça, on va réserver ces assemblées-là pour ça. Mais au Québec, depuis quelques quelques années, et ça, c'est vraiment peut-être le meilleur aspect ou la meilleure chose qui s'est dégagée toute cette crise de la démocratie-là, c'est qu'on s'interroge beaucoup sur les exercices de démocratie directe,
oui.
Et on en a de plus en plus,
oui.
Que ce soit des assemblées de quartier, je pense à par exemple, Lilo Irving ici, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, c'est quand même un exemple assez probant,
oui.
De consultation qu'il y a eu, et même eu un référendum par rapport à, oui. ça, donc premier
ben,
exemple
fait, dans les règlements directe. Dans les réglementations municipales, oui. le citoyen a le droit d'exiger un référendum sur un projet de réglementation avec lequel il est d'accord ou pas d'accord. Là.
Exactement, avec un certain, c'est certain que c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui peut arriver puis dire « moi, je veux un référendum », donc il faut qu'il y ait des gens qui s'organisent, donc la vie associative qui va amener la préoccupation au niveau des décideurs, au niveau des élus, que ce soit municipal, que ce soit provincial. Donc ça, encore une fois, il faut toujours qu'il y ait une forme d'organisation. Le citoyen peut pas, par lui-même, arriver et dire « moi, je veux ça et s'il vous plaît, portez ça ». Il faut qu'on fasse la preuve, il faut que le citoyen fasse la preuve que sa préoccupation est une préoccupation, somme toute, peut-être pas généralisée, mais qui trouve écho chez beaucoup d'autres gens que sa propre personne, finalement.
Ouais.
Donc, la démocratie directe, qui a vraiment émergé dans les années 60 aux États-Unis, qui se transporte de plus en plus au Québec, on voit ça depuis le début des années 2000, eh bien, il y a des gens qui vont dire qu'elle a trois contributions fondamentales. Donc, pour une démocratie, avoir des niveaux d'instance directes où les gens participent, bien ça, ça a trois contributions. Et la première serait que ça contribue à la reconnaissance, finalement, politique d'une plus grande diversité de points de vue. Donc, vous savez que dans la société, ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. J'aime bien l'adage. Eh bien, ces gens-là, souvent, n'ont pas d'endroit pour communiquer leur point de vue. Et la démocratie directe, cette assemblée-là, même si le point de vue n'est pas directement adopté, eh bien, ça leur permet de s'exprimer.
Oui, c'est ça. C'est comme s'il y avait un désir de pouvoir être entendu,
exactement.
De pouvoir s'exprimer, point, même si la décision n'est pas prise en fonction de l'opinion exprimée, c'est le désir de s'exprimer.
Tout à fait. Et c'est ce qui est intéressant dans tout ça. C'est là qu'on voit que la démocratie mature aussi avec le temps. Parce que...
faire entendre un point de vue.
Faire entendre un point de vue, et ça rentre aussi dans beaucoup cette idée, sans rentrer trop dans la philosophie, mais vraiment dans cette idée de société moderne là, où les gens qui sont dépositaires des droits et qui les incarnent en même temps, ont le droit de s'exprimer, ont une liberté d'expression. Donc, c'est vraiment le prolongement pratique de droits qui ont été déjà proclamés. Donc, ça, c'est quand même une bonne chose en soi que, finalement, ces droits-là prennent vraiment source dans des exercices précis. Donc, ça, c'est très bien. Deuxième contribution, contribue à la justice sociale. Donc, ça, c'est un peu un corollaire, car ça rapproche les citoyens du pouvoir politique. Donc, ça a l'air bien simple comme ça, mais de le vulgariser, on voit vraiment que ça sert à quelque chose. Donc, reconnaissance politique, justice sociale... Et ça contribue également à renforcer le droit de regard des citoyens sur les affaires publiques. Donc, leur fameuse taxe, je paie des taxes, donc je suis. Eh bien, c'est une façon d'aller vérifier ce qui se passe avec ça et de voir où nous en sommes rendus.
Ouais. Non, mais c'est de la théorie tout ça, évidemment. Là, quand on arriverait à une, c'est pas un peu utopique finalement. Ça serait possible ça vraiment que les gens puissent se prononcer et même participer à toutes les décisions.
Ben tu tombes à point, Catherine, parce que j'en suis rendu aux critiques. Donc les critiques fondamentales qui ont été émises aussi par rapport à ça. La première, c'est qu'il y aurait aussi avec ce type d'exercice-là un problème de représentation effective des points de vue, parce que souvent dans des assemblées, le type de discours qui va prédominer va être un discours essentiellement partagé. Donc, à quelques nuances près, les gens, c'est comme les partis politiques au Québec, ils n'ont pas tous la même position sur des enjeux, mais grossièrement, si je peux dire ça, ben ça se rejoint dans beaucoup de cas. C'est sûr que Québec solidaire et Parti libéral, c'est pas la même chose, mais grosso modo, le centre est quand même très, très large au Québec. Donc, pour ce qui est des exercices de démocratie délibérative, et ça, c'était la critique qu'Habermas, justement, faisait à Rawls à l'époque, c'était de dire que Rawls, lui, prônait le fait que les discussions dans une démocratie directe doivent toujours utiliser des arguments rationnels. Donc, des arguments qui peuvent toujours être justifiés rationnellement.
Okay, mais il est allé jusqu'à faire la part entre les arguments émotifs, les règles, parce
exactement.
Qu'on entend plein de trucs émotifs.
Exactement, et c'est là que Habermas intervient, de dire que, eh bien, si on justifie seulement rationnellement, eh bien, on exclut vraiment une panoplie de citoyens. Et là, vous me voyez venir, et ça va être le thème du prochain point, surtout les citoyens issus de l'immigration culturelle qui ont un bagage de culture, un bagage identitaire très différent. Et eux vont arriver avec des arguments qui sont peut-être, qui paraissent très, très loin de nous. Mais dans un débat, l'important, c'est de les considérer. Et ça, ces arguments-là, souvent, que ce soit par des préjugés, que ce soit par une certaine forme d'inadéquation, eh bien, ça fait que les gens, ou du moins ces arguments-là, dans le débat, eh bien, sont souvent mis de côté. Ça, c'est une première critique.
C'est ça. C'est que la démocratie, enfin, totale ou directe, c'est un petit peu la dictature de la majorité. Là. Puis la minorité, à un moment donné, n'est plus représentée, puis est complètement... peut même être opprimée. Là.
Ben, tout à fait. Et c'est de là que le terme démagogie institutionnalisée aussi est apparu. Donc, on en a eu un bel exemple avec la commission Bouchard-Taylor ceux qui, finalement, Hérouville, le fameux cas Hérouville, où on a entendu des propos qui étaient, somme toute, assez crus et quand même assez... c'était frappant de voir à quel point il y avait une brisure avec le discours des droits, des libertés de la personne, et de voir comment ce discours-là, qui était très, très antagoniste entre les Québécois et les musulmans dans ce cas-ci, bien, c'était assez frappant de voir comment certains arguments ont été mis à l'avant, et ça, ça a déplu à beaucoup de gens, et certains se sont dit, bien, voyons, moi, si je fais de la démocratie délibérative, je veux pas avoir accès à ce genre de discours-là parce que c'est contre-productif. Donc, vous voyez, la crédibilité du citoyen ordinaire, donc ce fameux citoyen ordinaire-là qui participe. Est-ce qu'il est vraiment en mesure d'avoir un jugement éclairé? Est-ce qu'il est en mesure de vraiment être capable de délibérer? Parce que le problème du citoyen, souvent, c'est son manque d'information par rapport aux spécialistes qui, eux, arrivent et ils ont l'information. Mais le citoyen qui s'informe par rapport aux médias, c'est sûr qu'on a Internet, on a une panoplie de périodiques et tout, mais l'information est souvent limitée pour le citoyen. Donc, est-ce qu'il peut jouer son rôle convenablement? Deuxième critique qui est revenue.
Oui.
J'y vais avec la troisième?
Oui, allez.
Parfait. Légitimité du consensus, souvent, qui va être atteint, qui va être obtenu dans ce type de délibération-là. Le consensus qui est très difficile, d'ailleurs, à obtenir,
j'imagine.
Parce qu'il y en a qui vont dire que ce type de rassemblement-là ne fait que polariser, finalement, les points de vue. Et c'est là que je reviens à ce que tu disais, que le citoyen veut s'affirmer. Il veut, lui, absolument s'affirmer. Donc, quand il arrive dans des organisations, du moins dans des soirées comme ça, des exercices, bien, lui, son travail... À la base, ce n'est pas d'essayer de trouver un arrangement, c'est d'essayer de dire ce que lui pense. Donc, souvent, ce qu'on voit, c'est que des gens vont se replier dans leur position et le consensus ou cette asymétrie-là qui se crée entre, finalement, le discours et l'Assemblée dans son entièreté, bien là, ça pose problème aussi. Donc, pas vraiment de nouvelles pistes de solutions, souvent, qui sont recherchées, mais plutôt l'affirmation d'une position, ce qui est très, très différent.
Dans le fond, on pourrait dire que dans la situation actuelle, avec le degré d'éducation et d'information du citoyen moyen, c'est un peu une utopie.
Oui, mais dans le sens où c'est très difficile d'avoir la bonne information, mais non, dans le sens où le citoyen n'aura jamais, et ça, c'est la beauté de la chose, n'aura jamais été aussi bien informé à quelque part. Donc, c'est là que il est bien informé parce qu'il a accès à beaucoup de sources, mais est-ce qu'il a l'information privilégiée? Et c'est ça qui fait que souvent les débats vont déraper. C'est que la petite chose qu'il faut savoir, c'est pas tout le monde qui la sait. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup de déséquilibre et de distorsion. Donc, ça, c'était la troisième. Il m'en reste deux. Ça sera pas très long.
Okay.
la quatrième, généralement, il y en a qui vont dire qu'il y a peu d'initiatives qui sont laissées aux participants parce que le débat est extrêmement encadré. C'est très, très procédural. Donc, droit de parole, changement, limite de temps dans les interventions, ce qui est bien, en quelque sorte. C'est sûr qu'il faut baliser. Mais il y en a qui vont dire qu'il y a une surabondance de ça et que le débat ne peut pas vraiment aller à son terme si on n'arrête pas de baliser les interventions des gens.
Oui. Et ça, c'est un peu comme dans les associations étudiantes. Je ne sais pas si tu as déjà participé à des assemblées étudiantes. C'est lourd en chien.
Ben, c'est parce que ça nécessite un niveau de connaissance préalable. Et c'est souvent là que le bas blesse. C'est que, comme là, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est ça que les gens souvent vont manquer. Donc, on pense qu'on va dire quelque chose, mais il y a des règles à respecter. Et ça décourage beaucoup de gens, des fois. Donc, voilà. Et d'ailleurs, la crise étudiante par rapport à ça, peu d'initiatives. Je vais donner un exemple de ça, comme quoi les c'était trop balisé. Bien, je ne sais pas si vous vous rappelez de la rencontre du 6 décembre 2011 dont les associations étudiantes ont mis beaucoup dans l'actualité pour dire que cette fameuse rencontre-là des partenaires de l'éducation avant que la crise étudiante éclate.
Oui. Ça... les fameuses simili-états généraux. Exactement. On a dit qu'on allait consulter les étudiants, mais en fait, ils se sont levés puis ils ont quitté la table parce que leur point de vue était absolument pas entendu.
Parce que la discussion était déjà formatée, préformatée. Oui. Et à partir de ça, donc cet a priori-là du fait que dans ce cas-ci, il y allait avoir hausse, quelles sont les modalités ou quelles devraient être les modalités. Mais là, on a un bel exemple de surencadrement du débat. Oui. Et c'est ce qui a fait que les étudiants sont partis et les centrales syndicales aussi. C'est que cette impression-là d'être complètement cloîtré dans un... Et le débat, finalement, n'a pas eu lieu parce qu'il n'y avait pas assez de l'attitude pour le mener à son terme. Donc ça, c'était la quatrième. Dernière, après ça, je pense qu'on va être mûr pour une pause.
Oui.
la cinquième, c'est l'effectivité réelle des délibérations. Donc ça fait un petit retour, un petit wrap-up sur ce que j'ai dit. Critique selon laquelle les décideurs ou les commissaires qui les représentent ne font acte d'une présence symbolique. Donc souvent, l'aspect délibératif est vraiment supplanté par le participatif. Donc participer à une rencontre, ça va, je peux dire ce que je veux, mais moi, ce que je veux, c'est en arriver à délibérer. Et ça, les commissaires ou ceux qui représentent le gouvernement, souvent, et ça, c'est la critique, font acte de présence, recueillent les témoignages, mais n'amènent pas ces témoignages-là, ou du moins l'équilibre de ces témoignages-là, le consensus, aux échelons les plus élevés. Donc, on se rend compte que finalement, il y en a qui vont dire que c'est une comédie, que ce n'est pas un vrai exercice, mais c'est une pièce de théâtre. Donc, ça, c'est le cinquième argument contre la démocratie délibérative ou participative. Voilà.
Il reste en tout cas que c'est complexe, c'est compliqué, c'est pas évident et ça prend beaucoup d'honnêteté de la part des gens qui participent à ça. Il faut faire attention si des gens sont là uniquement pour faire une crise émotive, sans apporter d'arguments, mais est-ce que ça vaut la peine d'amener ça après ça plus haut? Ça me semble très complexe, là.
Ben, c'est ça. Encore une fois, faut essayer de faire une part entre l'opinion et l'argument dans ce cas-ci, parce que l'opinion peut être intéressante, mais ce qu'on recherche surtout, c'est des arguments. Et de là, le processus de justification rationnelle dont je parlais.
De Habermas.
Du débat, du moins, entre Rawls et Habermas, c'est ça. Okay. Donc ça, c'était une pièce centrale de ça. Et le meilleur est à venir, j'en suis convaincu.
Oui, on fait une petite pause musicale. On va écouter la pièce « Mommy, Daddy » interprétée par Pauline Julien et ensuite on va parler d'immigration.
Mommy, Mommy, I love you dearly. Please tell me how in French my friends used to call me. Paul, Lise, Pierre-Jacques ou Louise, Gros Papineau, Gauthier, Fortin, Robichaud, Charbonneau. Mommy, Mommy, how come it's not the same? Oh, Mommy, Mommy, what happened to my name? Oh, Mommy, tell me why. Mommy, we used to live in this country. Saint-Marc-Grand-Mère, Gaspé, Dolbeau, Berthier, Saint-Paul, Tadoussac, Gatineau. Mommy, Mommy, how come it's not the same? Oh, Mommy, Mommy, there's so much in a name. Oh, Mommy, tell me why. It's too late, much too late. Mommy, Mommy, I love you dearly. Please sing the song you sang when I was a baby. Fais dodo, colle à mon petit frère. Fais dodo, mon petit frère, fais dodo, tu auras du lolo. That beautiful story. Un jour, ils partirent de France
bâtir ici quelques villages, une ville, un pays.
C'était la chanson « Mommy, Daddy » interprétée par Pauline Julien et composée par Gilles Richer et Marc Gélina. Moi, je considère que cette chanson-là introduit bien la prochaine partie parce qu'elle décrit un Québec devenu anglophone et assimilé. Nos sociétés démocratiques, évidemment, font aujourd'hui face à un nouveau défi, à l'intégration des nouveaux arrivants. Et donc, dans une société où tout le monde a une voix, et dans le contexte particulier du Québec et de son américanité, si je puis dire, on est parfois un peu frileux ici au Québec, un peu craintif quant à la protection de notre culture. Et ça, ça crée comme une crise, finalement.
Bien, ça, c'est la deuxième, finalement, le deuxième volet de la crise de la démocratie dont j'ai décidé de prendre conscience aujourd'hui. Et ce défi-là, ce que j'ai nommé le défi du pluralisme culturel ou du pluralisme identitaire en démocratie, bien ça, c'est une thématique qui revient extrêmement souvent et pas juste au Québec. On a l'exemple partout dans le monde, que ça soit sur les 5 continents, finalement. Et en Europe, on le voit beaucoup aussi avec l'adhésion à l'Union européenne, il y a beaucoup de critères de pluralisme culturel qui entrent en compte quand on cherche à intégrer ou non un pays. Donc oui, il y a l'économie, mais il y a beaucoup cette notion d'accueil de la diversité qui fait en sorte que, est-ce que ta démocratie est réellement une démocratie? Parce que on sait qu'en Europe, l'histoire par rapport à l'immigration, il y a eu beaucoup de problèmes et des fois, si je veux pas faire de comparaison, mais c'est à une échelle souvent plus élevée qu'ici au Québec
ou en Amérique. C'est sûr qu'en Europe, ils sont vraiment confrontés là, à une augmentation d'une population immigrante. C'est très, très importante.
Tout à fait.
Et ces gens-là votent.
Tout à fait, exactement. Et c'est ça qui fait que, de plus en plus, la démocratie, ou du moins la conception idéale ou idéale de la démocratie qu'on a, est souvent mise à mal par la perception qu'on a d'un certain pays qui accueille mal ou qui accueille bien, finalement, les immigrants. Et on pense, par exemple, à la France. On dit souvent que la France, c'est bien beau, la France, mais la laïcité sont très, très à cheval là-dessus. Et pour beaucoup de pays, dont les États-Unis, c'est une conception totalement inconcevable, la démocratie, de limiter au préalable autant de niveaux d'expression de la religion, que ce soit les signes, que ce soit les symboles, bref. Ouais. On va avoir l'occasion de revenir là-dessus. Donc, le défi du pluralisme culturel, je pense qu'on le constate en prenant conscience du haut potentiel de conflit aux grands défis posés par la mondialisation. Et ces défis-là, selon moi, c'est vraiment le regard que l'on porte par rapport aux questions morales. Première chose, souvent, quand on a un clash ou vraiment une rupture de culture, si on veut, c'est par rapport aux grandes questions. On a l'avortement, l'égalité homme-femme qui revient souvent, l'homosexualité, même la torture, qui est un enjeu moral très, très important aujourd'hui. On a aussi le statut ou le niveau d'acceptation de la religion dans la vie publique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez problématique et on le vit ici aussi, notamment avec le programme électoral du Parti québécois et de sa charte de la laïcité qui va être mon prochain point. Juste une petite parenthèse avant d'en venir à ça. Le deuxième constat qui nous fait constater que sur le plan du pluralisme culturel, c'est un petit peu difficile, c'est souvent les réactions de repli ou d'affirmation identitaire des fois qu'on va voir apparaître dans l'espace public. Donc autant l'affirmation identitaire peut être positive comme « je suis », mais autant qu'elle peut être négative comme « je ne suis pas ». Et c'est ça souvent qu'on voit qui pose problème. Et quand le conflit prend sa source dans ce qui est considéré comme fondamental, soit pour la préservation ou la survivance d'une collectivité, que ce soit la langue ou la religion, bien là, on se retrouve dans une situation extrêmement complexe. Et quand cela touche à la façon dont l'individu se définit en tant que personne ou citoyen, bien là, on tombe dans une autre zone, très, très sensible.
Oui.
Voilà.
Donc, évidemment, la rencontre de la différence, quand on vit dans un petit village où il y a une monoculture, c'est pas si mal, mais quand on vit dans une ville où il y a une représentation immigrante très importante, ben là,
C'est certain que c'est une question d'adaptation. C'est une question d'adaptation et dans un monde qui va tellement vite, l'adaptation, souvent, il faut qu'elle se fasse plus vite que ça devrait. Donc, on voit déjà un grand défi qui se pose et un contexte de crise qui foisonne dans tout ça.
Donc là, tu vas nous parler du projet de charte de laïcité du Parti québécois qui est une réaction, finalement, à ce problème-là.
Oui.
Et on se demande si ça contrevient pas à la démocratie.
Exactement.
Une charte plus, comme ça.
Et plus précisément, ce que certains auteurs vont dire, est-ce que ça contrevient? Est-ce que ce souci... Parce que la Charte de la laïcité, c'est vraiment pour affirmer, de un, les valeurs d'un peuple, que ce soit, dans ce cas-ci, la langue française, même si on se demande ce que la langue française et la laïcité, pourquoi ils vont ensemble, là, c'est pas dans le même registre, mais c'est promu comme ça, c'est le message qui est passé, donc on peut rien faire pour ça, mais cette égalité homme-femme qui est très très présente au Québec, eh bien ça, souvent on se rend compte que ça entre en conflit avec la liberté d'expression ou la liberté de conscience, donc c'est là que la démocratie développe vraiment un problème dans le cas du pluralisme culturel, c'est quel droit doit prédominer sur l'autre. Et pour le PQ, eh bien, et pour des ou même pour la CAQ qui a fait de la laïcité un cheval de bataille aussi, eh bien, l'égalité homme-femme doit primer sur tout. Et ça, ça peut mener à quelques conflits. On va voir pourquoi je dis pas que je suis contre l'égalité homme-femme. C'est pas ça que je dis. Je mets en perspective un débat par rapport à la prédominance de certains droits sur un autre.
Mais finalement, pour qu'une démocratie soit vraiment fonctionnelle, il faut qu'il y ait une certaine homogénéité, finalement, du groupe.
Tout à fait. Et c'est là qu'on se rend compte que, bon, qu'est-ce qu'on met de l'avant en premier? Donc, pour cimenter ou pour souder la collectivité, même si elle est très, très plurielle, même si elle est très, très variée, qu'est-ce qu'on met? Et c'est là que nous, ici au Québec, on a décidé de mettre non pas nécessairement la culture multicentenaire, mais la langue. C'est vraiment la langue qu'on a décidé de mettre de l'avant, et une certaine conception de neutralité aussi par rapport à la religion. Donc, ça, c'est une neutralité prônée par le PQ. Mais je veux simplement vous dire deux citations du PQ de sa chef, Pauline Marois, et de la porte-parole en matière de laïcité, Carole Poirier, qui déclarait chacune à leur tour des phrases assez intéressantes, et ça va mettre en contexte le reste des choses. Et vous allez voir quelle attitude se dégage par ces citations-là. Donc, première, Pauline Marois. En décembre 2011, ouverture des guillemets, nos valeurs communes, la primauté du français, l'égalité homme-femme, la laïcité dans les institutions publiques et la valorisation de la culture québécoise sont constamment bafouées au nom du multiculturalisme canadien. Donc, première citation. Deuxième citation, Carole Poirier, ouverture des guillemets. Cette charte, dont la charte de la laïcité, affirmera notamment que le Québec est un État laïque, neutre par rapport aux croyances ou non-croyances des uns et des autres en matière de religion. Elle affirmera aussi que la liberté de religion ne peut être invoquée pour enfreindre le droit à l'égalité homme-femme. Donc, vous voyez cette prédominance du droit à l'égalité qui est là. Eh bien, ça, pour certains, c'est quelque chose qui va être problématique parce que dans une société libérale, on doit pouvoir permettre l'expression de la religion. Et quand j'ai expression de la religion, dans ce cas-ci, on parle souvent du foulard ou du hijab et cette famille-là de vêtements qui recouvre la tête.
Ouais. Ben, en tout cas, je veux pas tomber là, un débat là-dessus, mais disons que la mutilation des petites filles, ça peut aussi être un trait culturel. Il y a un moment donné...
C'est là que le juge...
Mais on veut pas tomber dans le débat.
Non, parce que ça reste extrême.
On s'entend que quand même...
Mais c'est là qu'on voit la complexité. Ben, c'est à l'avantage de ta phrase. Ou du moins ton intervention montre que c'est complexe et il faut trouver un équilibre entre tout ça. Ouais. Et souvent dans ce cas-ci, c'est souvent l'histoire du foulard qui revient.
Ouais.
Et le foulard qui revient dans certains cas, ça va être une obligation morale, donc même une imposition que les hommes vont vouloir que leurs femmes portent ça. Mais dans certains cas, et c'est ce que les études démontrent de plus en plus, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui acceptent librement de le porter.
Ouais.
Et c'est
non, mais
là
je veux
que
pas
ça
qu'on tombe dans ce débat-là.
Mais c'est difficile.
Disons, est-ce qu'on pourrait dire finalement que l'immigration, c'est comme une difficulté, un défi pour nos sociétés démocratiques?
Ben oui, dans le sens où on a tous un imaginaire collectif au Québec, en particulier c'est l'imaginaire finalement de la survivance souvent qui est encore là, donc vraiment une collectivité qui a réussi à traverser les épreuves pour finalement encore parler français aujourd'hui et évacuer la religion de l'espace public. Donc oui, ça devient problématique parce que là, on est obligé de recomposer notre imaginaire, mais essayer de le conserver en même temps. Donc, on voit la fameuse zone grise qui se passe. C'est là qu'on en vient avec les conflits de droit, les conflits d'apparence aussi. Et qu'est-ce qu'on fait avec, finalement, cette fameuse religion dans l'espace public? Le débat n'est pas terminé. Ça, c'est certain.
On tombe au troisième point,
oui.
Donc.
Mais je voulais juste faire une petite parenthèse par rapport à ça.
Oui.
Par rapport au fait que Micheline Milo, qui est vraiment une experte de la laïcité au Québec, à l'Université du Québec à Montréal, à l'UQAM, qui, elle, se posait des questions par rapport au fait que, est-ce que avec une charte de la laïcité, avec une affirmation claire et nette que ici on veut pas de ça, est-ce que c'est un bon moyen pour rassurer les gens et pour leur dire que, est-ce que c'est un bon moyen pour rassurer la paix sociale? Et c'est là qu'elle a trouvé des observations quand même intéressantes. Elle dit, bien moi, avec tout mon vécu, je n'ai vu aucune étude qui montre qu'un fonctionnaire, par exemple, qui porte un signe religieux, se montre partial ou discriminatoire dans son travail. Donc, première chose à se poser une question, est-ce que le fait de porter un signe influe vraiment la mentalité des gens dans l'exercice de son travail? Première question, et ça, c'est pas toujours évident.
Peut-être que ça influe la personne qui rentre en contact avec le fonctionnaire. Enfin,
donc, une personne.
Oui, c'est ça.
Il faudrait des heures. Donc,
oui, c'est ça.
Donc, on va passer au deuxième. Deuxième questionnement, c'est que contrairement au diagnostic souvent de gens qui prônent la laïcité d'une manière très forte, eh bien, à ce qu'on sache aujourd'hui, l'État québécois n'est subordonné en tant que tel à aucune religion dans l'exercice de ses décisions. Donc, quand il y a une décision par rapport aux religions, ça passe par le judiciaire et non par le Parlement. Le Parlement n'est pas vraiment, du moins, ne se fait pas influencer directement. Et c'est là qu'on se pose des questions. Est-ce qu'une charte comme ça, qui affirme fortement, est-ce que c'est nécessaire quand le contexte de crise peut être relativisé? Donc, deuxième question. C'est dur à se placer là-dedans.
Mais si on veut aller vers le troisième,
oui,
le dernier point, dans le fond, ce que ça soulève, effectivement, c'est que comment la démocratie gère les conflits.
Exactement. Est-ce qu'elle est prête à accepter le conflit? Ça, c'est l'autre, du moins, c'est la question la plus importante. Et je donne, par exemple, le fait que la démocratie, à la base, c'est un mode de régulation des conflits. Donc, si c'est un mode de régulation des conflits, ça présuppose que le conflit est substantiel, la démocratie. Le conflit existe et il est là. Et ce qui est drôle dans tout ça, c'est qu'on se rend compte que, et là, j'ouvre encore ma parenthèse de citation, je suis tanné de la chicane. Une phrase qu'on entend souvent de ces temps-ci, je suis tanné de la chicane, j'en veux pas. Que ça soit au niveau du débat public ou que ça soit au niveau du leadership aussi des politiques. Je donne l'exemple. PQ, Parti québécois, on met de l'avant dans le message politique une équipe qui est vraiment de type horizontal, même voire circulaire. Donc vraiment, on communique ensemble et après délibération collective, après ça, c'est le chef qui devient en quelque sorte notre porte-parole. Tandis qu'au PLQ, au Parti libéral, eh bien, on voit souvent une relation exactement qui est plus verticale. C'est le chef doit être là et on voit deux conceptions du leadership en démocratie qui se fait face présentement.
Donc, ça, c'est très, très intéressant, effectivement, la notion de porte-parole qui a été amenée avec le printemps érable, la classe. Et lorsque ces jeunes-là étaient en entrevue à la télévision, puis ils se présentaient comme étant des porte-parole, la manière dont nos journalistes étaient incapables de comprendre cette notion-là.
Tout à fait. Et c'est là qu'on voit aussi que ce que ça a mis au jour, cette crise-là, c'est que le choix des termes est extrêmement important. Et que le choix des termes peut orienter le débat complètement et même le faire déraper, comme dans ce cas-ci, dans le cas de Lassé au dernier printemps, finalement.
Oui, puis donc, je pense qu'en démocratie, en tout cas, il y a bien des citoyens qui aimeraient que leurs députés soient leur porte-parole.
Exactement. Et ça, est-ce que ça se peut? Encore une fois, jusqu'où on peut finalement instrumentaliser cette notion de porte-parole-là? Ça va être un défi à régler dans cette crise de gestion du conflit, finalement, en démocratie. Et, c'est à se demander des fois si on est réellement démocrate, parce qu'il y a des gens qui vont dire, la démocratie, c'est le droit des gens et tout, mais est-ce que... mais ces gens-là ne sont pas prêts à accepter que, comme Jean-François Lisée disait, ça m'a toujours restant en tête que des fois ça prend plus de temps, puis des fois c'est plus long. Mais en bout de ligne, ce qu'on veut assurer, c'est une légitimité. Et c'est là la question, selon moi, au 21e siècle, et qui est là depuis très très longtemps, c'est la question de la légitimité des décisions, la légitimité du pouvoir. Et ça doit passer par vraiment une canalisation du conflit. Et la démocratie, jusqu'à maintenant, je crois que c'est peut-être la meilleure façon d'en arriver à ce résultat-là,
légitimité,
finalement.
Écoute, merci beaucoup, Martin. Je trouve que ça a vraiment posé l'ensemble de la réflexion de manière très, très claire.
Super.
les critiques qu'on a entendues, qui ont été formulées, en tout cas pour moi, ces derniers 6 mois, je trouve que ça a parfaitement été ramassé dans ton intervention.
Merveilleux.
Merci. On va faire une dernière pause musicale pendant laquelle Roxane va venir s'installer pour nous faire la lecture d'un extrait de ce grand classique de la philosophie politique qui s'appelle « De la démocratie en Amérique » de Alexis de Tocqueville. Alors, on va écouter « A Horse with No Name » du groupe America.
First part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sands and hills and rain was sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one.
Donc, c'était « A Horse with No Name » du groupe America. Roxane vient de prendre place. Elle va nous lire donc un extrait du livre « De la démocratie en Amérique ». Et c'est un extrait du chapitre qui s'intitule « Pourquoi les grandes révolutions deviendront rares ».
L'égalité des conditions porte-t-elle les hommes d'une manière habituelle et permanente vers les révolutions? Contient-elle quelques principes perturbateurs qui empêchent la société de s'asseoir et disposent les citoyens à renouveler sans cesse leurs lois, leurs doctrines et leurs mœurs? Je ne le crois point. Le sujet est important, je prie le lecteur de me bien suivre. Presque toutes les révolutions qui ont changé la face des peuples ont été faites pour consacrer ou pour détruire l'inégalité. Écartez les causes secondaires qui ont produit les grandes agitations des hommes, vous en arriverez presque toujours à l'inégalité. Ce sont les pauvres qui ont voulu ravir les biens des riches ou les riches qui ont essayé d'enchaîner les pauvres. Si donc vous pouvez fonder un état de société où chacun ait quelque chose à garder et peu à prendre, vous aurez beaucoup fait pour la paix du monde. Je n'ignore pas que, chez un grand peuple démocratique, il se rencontre toujours des citoyens très pauvres et des citoyens très riches. Mais les pauvres, au lieu d'y former l'immense majorité de la nation, comme cela arrive toujours dans les sociétés aristocratiques, sont en petit nombre, et la loi ne les a pas attachés les uns aux autres par les liens d'une misère irrémédiable et héréditaire. Les riches, de leur côté, sont clairsemés et impuissants. Ils n'ont point de privilèges qui attirent les regards, leur richesse même, n'étant plus incorporée à la terre et représentée par elle, est insaisissable et comme invisible. De même qu'il n'y a plus de race de pauvres, il n'y a plus de race de riches, ceux-ci sortent chaque jour du sein de la foule et y retournent sans cesse. Ils ne forment donc point une classe à part, qu'on puisse aisément définir et dépouiller, et tenant d'ailleurs par mille fils secrets à la masse de leurs concitoyens, le peuple ne saurait guère les frapper sans s'atteindre lui-même. Entre ces deux extrémités de société démocratique se trouve une multitude innombrable d'hommes presque pareils qui, sans être précisément ni riches ni pauvres, possèdent assez de biens pour désirer l'ordre et n'en ont pas assez pour exciter l'envie. Ceux-là sont naturellement ennemis des mouvements violents, leur immobilité maintient en repos tout ce qui se trouve au-dessus et au-dessous d'eux et assure le corps social dans son assiette. Non seulement les hommes des démocraties ne désirent pas naturellement les révolutions, mais ils les craignent. Il n'y a pas de révolution qui ne menace plus ou moins la propriété acquise. La plupart de ceux qui habitent les pays démocratiques sont propriétaires. Ils n'ont pas seulement des propriétés, ils vivent dans la condition où les hommes attachent à la propriété le plus de prix. Si l'on considère attentivement chacune des classes dont la société se compose, il est facile de voir qu'il n'y en a point chez lesquelles les passions que la propriété fait naître soient plus âpres et plus tenaces que chez les classes moyennes. Souvent, les pauvres ne se soucient guère de ce qu'ils possèdent parce qu'ils souffrent beaucoup plus de ce qui leur manque qu'ils ne jouissent du peu qu'ils ont. Les riches ont beaucoup d'autres passions à satisfaire que celles des richesses, et d'ailleurs, le long et pénible usage d'une grande fortune finit quelquefois par les rendre comme insensibles à ses douceurs. Mais les hommes qui vivent dans une aisance également éloignée de l'opulence et de la misère mettent à leurs biens un prix immense. Comme ils sont encore fort voisins de la pauvreté, ils voient de près ses rigueurs et ils les redoutent. Entre elles et eux, il n'y a rien qu'un petit patrimoine sur lequel ils fixent aussitôt leurs craintes et leurs espérances. À chaque instant, ils s'y intéressent davantage par les soucis constants qu'ils leur donnent et ils s'y attachent par leurs efforts journaliers qu'ils font pour l'augmenter. L'idée d'en céder la moindre partie leur est insupportable et ils considèrent sa perte entière comme le dernier des malheurs. Or, c'est le nombre de ces petits propriétaires ardents et inquiets que l'égalité des conditions accroît sans cesse. Ainsi, dans les sociétés démocratiques, la majorité des citoyens ne voit pas clairement ce qu'elle pourrait gagner à une révolution, et elle sent, à chaque instant, et de mille manières, ce qu'elle pourrait y perdre. Je ne sache rien d'ailleurs de plus opposé aux mœurs révolutionnaires que les mœurs commerciales. Le commerce est naturellement ennemi de toutes les passions violentes. Il aime les tempéraments, se plaît dans les compromis, fuit avec grand soin la colère. Il est patient, souple, insinuant, et il ne recourt aux moyens extrêmes que quand la plus absolue nécessité l'y oblige. Le commerce rend les hommes indépendants les uns des autres. Il leur donne une haute idée de leur valeur individuelle. Il les porte à vouloir faire leurs propres affaires et leur apprend à y réussir. Il les dispose donc à la liberté, mais il les éloigne des révolutions. Oserais-je le dire au milieu des ruines qui m'environnent? Ce que je redoute le plus pour les générations à venir, ce ne sont pas les révolutions. Si les citoyens continuent à se renfermer de plus en plus étroitement dans le cercle des petits intérêts domestiques et à s'y agiter sans repos, on peut appréhender qu'ils ne finissent par devenir comme inaccessibles à ces grandes et puissantes émotions publiques qui troublent les peuples, mais qui les développent et les renouvellent. Quand je vois la propriété devenir si mobile et l'amour de la propriété si inquiet et si ardent, je ne puis m'empêcher de craindre que les hommes n'arrivent à ce point de regarder toute théorie nouvelle comme un péril, toute innovation comme un trouble fâcheux, tout progrès social comme un premier pas vers une révolution, et qu'ils refusent entièrement de se mouvoir de peur qu'on ne les entraîne. Je tremble, je le confesse, qu'ils ne se laissent enfin si bien posséder par un lâche amour des jouissances présentes que l'intérêt de leur propre avenir et de celui de leurs descendants disparaissent, et qu'ils aiment mieux suivre mollement le cours de leur destinée que de faire, au besoin, un soudain et énergique effort pour le redresser. On croit que les sociétés nouvelles vont chaque jour changer de face, et moi, j'ai peur qu'elles ne finissent par être trop invariablement fixées dans les mêmes institutions, les mêmes préjugés, les mêmes mœurs, de telle sorte que le genre humain s'arrête et se borne, que l'esprit se plie et se replie éternellement sur lui-même sans produire d'idées nouvelles, que l'homme s'épuise en petits mouvements solitaires et stériles et que, tout en se remuant sans cesse, l'humanité n'avance plus.
Merci beaucoup, Roxane. C'est très intéressant d'entendre ça, d'autant plus qu'on se rend compte que les grands textes classiques sont toujours contemporains, finalement. Alors, merci encore. Je tiens donc à remercier tous les participants. D'abord, Gab Paquette, qui a composé le thème musical de l'émission et qui sera en spectacle, je vous le rappelle, le 15 septembre avec son band à la librairie Saint-Jean-Baptiste au 565 rue Saint-Jean. Je remercie notre libraire, David, qui nous accueille chaque premier lundi du mois pour l'enregistrement de l'émission. Merci à tous mes invités qui ont passé de nombreuses heures, je n'en doute pas, à préparer leur entrevue ce soir, donc Mathieu, Xavier et Martin. Un gros merci à Roxane qui s'est déplacée expressément pour venir nous faire une lecture donc du texte de Tocqueville, et je vous dis en passant que ça a été écrit en 1835. Finalement, merci à Anaël qui fait la mise en onde de l'émission, une présence discrète mais ô combien appréciée. Le mois prochain, nous parlerons du doute. Bonne fin de soirée.